Bonjour à tous et bienvenue à Champ contre Champ, rendez-vous mensuel avec le cinéma proposé par l'association Profil sur antenne de Fréquence Protestante. Émission présentée aujourd'hui par moi-même, Jean Lau, et qui sera animée par Jean-Michel Zucker. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Par Jacques Champeau. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Et par Jean-Michel Kolski. Bonjour Jean.
Bonjour.
Au programme de cette émission seront mis en débat trois films sortis au cours du mois de mars et qui sont très différents, tant par leur thématique que par leur style. Nous commencerons ainsi par le très austère nouveau film de Bruno Dumont, Camille Claudel 1915. Nous passerons ensuite à quelque chose de nettement plus léger, avec la comédie de Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, Au bout du compte. Et nous terminerons avec nos remarquables films politiques du réalisateur chilien Pablo Larraín. Et bien sûr, en fin d'émission, nous laisserons la place à deux petits coups de cœur. Voilà. Donc, attaquons tout de suite avec Camille Claudel 1915, dont on peut dire tout de suite que c'est un film à la fois passionnant et déroutant, comme d'ailleurs les films précédents de Bruno Dumont. Et ceci dès son premier film, La vie de Jésus, en 1997. Son côté radical va s'accentuer avec L'humanité en 1999 et va se poursuivre avec, ensuite avec Flandre, avec Adévich, avec L'admirable hors Satan en 2011. Avec Camille Claudel 1915, Bruno Dumont s'inspire pour la première fois d'une histoire vécue, celle de Camille Claudel, sœur de Paul Claudel et maîtresse de Rodin. Bruno Mitaine avait consacré un film à Camille Claudel en 1988, mais peut-on vraiment comparer le film de Mitaine et celui de Dumont? Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Michel?
Oui, pas du tout. On ne peut pas le comparer du tout. C'est un film de 88 qui racontait la biographie de Camille Claudel avec Adjani et Depardieu. Je l'ai vu sans en conserver un grand souvenir. En réalité, là, c'est tout à fait différent. Pour situer les choses, on peut dire que les films de Bruno Dumont sont âpres, violents, austères, minimalistes, métaphysiques, et qui travaillent volontiers avec des non-comédiens comme Robert Bresson. Ce film, qui était en compétition au Festival de Berlin 2013, est né de la conjonction de deux désirs, celui de Juliette Binoche de travailler avec Dumont et celui de Dumont de filmer une femme dans sa solitude et dans son isolement. L'internement et l'oisiveté de Camille Claudel sont ici scrutés pendant 3 jours avec une actrice qui a l'âge de Camille Claudel à ce moment-là. Et c'est ceci qui a séduit Bruno Dumont, qui s'est appuyé librement sur les œuvres et la correspondance de Paul Claudel, sur la correspondance de Camille elle-même, et sur les archives médicales de celle-ci dans l'établissement d'internement où elle a séjourné jusqu'à sa mort. En 1913, à la mort de son père et après 10 années passées dans son atelier du Quai Bourbon, elle est internée par sa famille dans un asile psychiatrique du sud-est de la France, qui est celui de la maison d'accueil spécialisée de Mont-de-Vergue dans le Vaucluse. À partir de ce moment-là, elle ne sculptera plus. C'est le moment auquel Bruno Dumont observe au microscope, pendant l'hiver 1915. Elle y est interprétée par la bouleversante Juliette Binoche, qui attend la visite de son père, de son frère, Paul, et qui est l'acteur Jean-Luc Vincent, très proche dans son aspect physique et très juste dans son interprétation. Elle l'attend dans l'espoir fou et déçu, malheureusement, qu'il viendra la délivrer. Le film relate la vie quotidienne de Camille au sein de l'asile, avec le compagnonnage monstrueux des internés lourdement abîmés par le séjour asilaire, qui sont les résidents même de l'asile psychiatrique dans lequel le film a été tourné, et au contact de la sollicitude quasi angélique des religieuses de l'époque qui sont jouées dans le film par les infirmières de l'établissement. Il ne se passe rien dans ce film. Rien d'autre que les reflets sur le visage de Juliette Binoche de sa vie intérieure et les effets de son comportement et les effets sur son comportement des traumatismes qu'entraîne le type de vie qu'elle mène dans cet asile au contact de pensionnaires à la fois inquiétant et émouvant. Sa vie marginale devait mener Camille, après la crise qui a entraîné l'éloignement de Rodin, à conduire sa famille à vouloir s'en débarrasser pour, pense-t-elle, accaparer l'héritage de son père, faire main basse sur ses œuvres. Elle est abusivement internée, semble-t-il, au spectateur, et son sort est poignant. Le tragique et l'horreur des conditions de vie de Camille irradient des paroles improvisées de Juliette Binoche, mais imprégnées des lettres de Camille Claudel et de son interprétation sobre et puissante, dont l'expression apeurée, craintive et terrifiée poursuit le spectateur bien après la fin du film. Il faudrait dire bien autre chose sur les qualités cinématographiques de ce film, les paysages soulevants, les cadrages merveilleusement ajustés, les contrastes entre les plans rapprochés et les plans larges, très riches, volontiers en contre-plongée, et des moments extraordinaires, j'ai pas le temps de détailler ici, mais qui sont à plusieurs reprises présents dans ce film.
Oui, tout à fait, Jean-Michel. Là, je t'approuve entièrement, enfin, je suis entièrement d'accord avec toi, tu sais, la qualité de ce cinéma que j'ai trouvé assez extraordinaire. C'est un cinéma qui m'a paru minéral, non pas dans sa façon de filmer, mais dans la façon de donner du poids à l'image. Trop souvent, dans les films, les images sont simplement des illustrations, alors que elles sont vraiment incarnées. Et moi, je dirais que dans ce domaine, il y a quelque chose qui le rapproche de Bresson et de Dreyer. L'Anglois disait que Bresson radiographiait les âmes. Je trouve que lui, il radiographie également les âmes. Mais la grande différence pour moi, c'est que, alors que Dreyer radiographie les âmes, font monter les âmes, nous pousse vers les hauteurs de l'âme, Dumont, nous fait descendre dans ses profondeurs. Et je dis ses profondeurs et pas ses bas-fonds. Jean, est-ce que tu...
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Et voilà, voilà ce que j'ai vu dans ce film. D'abord, de magnifiques paysages provençaux, indiscutablement. Un type qui se fait passer pour Claudel et qui déclame du Claudel comme un comédien amateur d'une troupe minable. Des malades mentales, trop réels et qui nous mettent complètement mal à l'aise. Cette espèce de voyeurisme est, à mon avis, assez détestable. Par contre, une très bonne Juliette Binoche, qui joue les folles en pleurant beaucoup. Bon, vous avez compris, j'ai pas vraiment aimé.
Tu n'as pas vraiment adhéré à ce film.
Pas complètement, non.
Toi, Jacques, tu...
moi, j'ai adhéré. Je trouve que c'est un film qui est austère, mais qui est très fort. Bon, il est filmé dans des tons gris totalement désespérants. Les murs, les vêtements, les ciels, même les visages. Il y a de beaux paysages, mais disons en fait, on se croirait plutôt en termes de tonalité dans les Flandres, cher à Bruno Dumont, que dans le Midi. Alors, je dois avouer que moi aussi, j'ai été un petit peu mal à l'aise au début en voyant et entendant les vraies folles, finalement, jouer autour de Juliette Binoche. Mais au fur et à mesure des scènes, j'ai trouvé qu'au fond, c'était une idée géniale. Parce que cet environnement de gestes, de visages, mais aussi de bruits, de sons, de rires, d'aimants, enferme véritablement Camille dans un lieu inhabitable, une atmosphère irrespirable. C'est presque physiquement que le spectateur le ressent, c'est-à-dire qu'elle a sa part de folie, elle, mais c'est pas de la même espèce, et cette proximité de vrais démons est désespérante. Et ce qui est peut-être pire, c'est que quand elle se trouve elle-même face à des personnes saines, comme le docteur ou son frère, elle se heurte là à un mur de silence. Et ça donne lieu à de très belles scènes, de très longs plans fixes, où finalement elle semble parler face à un mur avant de basculer dans sa paranoïa. Donc moi, j'ai trouvé effectivement que ce film était remarquablement filmé et très fort.
Oui, il y a ce nombre d'images absolument remarquables. Je pense à deux, par exemple, le moment où Camille est assise sur le banc, où il y a un champ contre champ entre le mur et elle, qui est assez extraordinaire. Mmh. Et de même que le moment où elle a son discours vis-à-vis de son frère, et où la caméra se rapproche d'elle en même temps qu'elle parle, et la caméra l'enferme dans un étau, je trouve ça tout à l'extraordinaire.
Dans un très lent travelling avant,
ouais,
qui est surprenant, et pour moi, on n'a jamais filmé l'abandon et la déréliction d'une façon... Ouais. Aussi poignante.
Absolument. Bon, ben je crois que... Je ne sais pas si on a donné envie à nos auditeurs d'aller voir ce film. De toute manière, c'est pas un film, disons-le quand même, qui se voit comme un film ordinaire. Il faut s'attendre quand même à certaines épreuves dont on est largement récompensé par la suite. Bon, passons à notre film du jour. Là, donc, on va changer complètement d'époque, de milieu, de genre, avec le film d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, ou du Comte. Bon, ici, l'époque devient contemporaine, le milieu devient bourgeois, pour ne pas dire bobo, et le genre devient carrément celui de la comédie. On peut dire qu'il y a en gros deux volets dans l'œuvre des duettistes Jaoui Bacri. D'une part, celui où ils écrivent des scénarios pour d'autres, ce sera ainsi pour Clapiche avec Un air de famille, ou pour Alain René avec On connaît la chanson et Smoking de Smoking, et puis il y a celui où le domaine où ils réalisent, et particulièrement Agnès Jaoui. Ce sera C'est ainsi le cas pour Le goût des autres, pour Comme une image, pour Parlez-moi de la pluie. Alors, avec tous ces points communs, tous ces différents films ont un certain nombre de points communs. Ils ont un ancrage sociologique très marqué, ils ont un cadre intimiste, une construction chorale, ils ont aussi une grande qualité, ils ont des dialogues remarquablement écrits, où dans un mélange de miel et de fiel, chacun dit alternativement sa vérité aux autres. Alors aujourd'hui, voici de nouveau Agnès Jaoui. Ce film appartient-il à la famille Jaoui-Bacri ? Jacques, qu'est-ce que tu en penses ?
Je dirais oui, certainement, et un peu non. Alors oui, on retrouve cette construction en film choral, ces personnages très nombreux dont les destins s'entrecroissent, ces dialogues bien écrits, percutants, son attention aux détails. Mais il y a un peu autre chose dans ce film, qui est d'ailleurs annoncé par le titre, c'est cette référence à la fois visuelle et narrative au conte. Attention, au conte de fées, hein, pas au conte de comptable. Cette référence au conte, on la trouve dès le début du film, qui nous transporte dans une forêt magique. En fait, magique, elle est uniquement magique parce qu'elle est filmée comme magique. Avant de nous déposer dans une école primaire, où Agnès Jaoui, malfagotée dans un déguisement approximatif de fée, dirige des enfants pour leur faire rejouer un conte. Et on est ensuite promené de conte en conte. Alors il y a le bal de Cendrillon, enfin un Cendrillon un peu inversé, parce que le Cendrillon c'est plutôt le prince charmant et qui a le coup de foudre pour la princesse et qui donc ce malheureux Sandro perd sa chaussure dans l'escalier aux 12 coups de minuit. Il y a l'héroïne Laura qui toute de rouge vêtue comme un petit chaperon rouge. Rencontre dans la forêt en allant chez sa tante, le grand méchant loup qui répond au doux nom de Maxime Wolf, il y a la reine noire de Blanche-Neige, qui est un produit absolument magique de la chirurgie esthétique, et qui interroge son miroir pour savoir si elle est toujours la plus belle. On est donc dans le conte de fées, sauf qu'en 2013, évidemment, les histoires ne se terminent pas tout à fait comme dans les contes. Les princes ou les princesses se révèlent plutôt volages, et les Blanche-Neige endormies sont réveillées par une bonne gifle et non pas par un baiser. Et sur cette toile de fond, donc cette ambiance de conte, alors se déroulent les histoires de notre temps que l'on retrouve dans les autres histoires d'Agnès Jaoui. Les couples se composent, se décomposent, se recomposent. Les principaux personnages emmêlent leur histoire par relation familiale ou par suite de rencontres fortuites. Donc il y a Laura, qui est jouée par Agathe Bonitzers, la pauvre petite fille riche, qui rêve du prince charmant, mais qui ne sait pas très bien quel est le bon. Il y a donc Sandro, joué par Arthur Dupont, le garçon pauvre, indécis, un peu lâche, mais qui a du talent. Il y a bien sûr Jean-Pierre Bacri, qui joue Pierre, le père de Sandro. Alors lui est divorcé, solitaire, matérialiste affirmé, mais angoissé par une prédiction d'une voyante qui lui a daté sa mort 40 ans avant. Et puis il y a évidemment Agnès Jaoui qui joue Marianne, la tante un peu bohème de Laura, comédienne ratée qui revendique son indépendance mais doit faire appel à son ex-mari dès qu'elle a besoin de changer une ampoule. Et puis il y a d'autres personnages bien campés, donc le donjon cynique dont on a parlé, la marâtre toujours jeune, l'adolescente qui fait sa crise mystique, le riche industriel que l'on accuse de pollution. Donc tous ces personnages discutent, se découvrent, s'en mêlent. Et de quoi nous parle-t-il ? Eh bien, d'abord de l'amour ou des amours, du désordre amoureux, de la disparition du prince charmant, mais aussi de la contradiction entre le désir d'indépendance et le besoin d'un héros, ou du moins d'un Barry bricoleur. Il nous parle aussi des relations parents-enfants, pas très faciles. Il nous parle aussi du rapport, de notre rapport à la croyance, alors qu'elle se manifeste par un conte de fées, une foi religieuse ou la prédiction d'une voyante. Donc tout ça fait un film plaisant, un peu confus parfois, mais au dialogue acéré, au personnage savoureux, très bien interprété. On rit souvent, on pense à certains films de René, parfois aussi à Romère. Une bonne comédie, douce amère, sans illusion mais sans drame, ce n'est pas si fréquent.
Oui, je suis à peu près d'accord avec toi. Je reste personnellement sur deux réactions opposées vis-à-vis de ce film. D'une part, certaines déceptions, étant donné la surmédiatisation auquel ce film avait donné lieu. Et finalement, quand on voit le film, on se demande finalement si on ne serait pas contenté de passer la bande-annonce, parce que c'est tant de bon dans le film et dans la bande-annonce. À côté de ça, bon, je dois dire que j'ai quand même été sensible à ce charme. J'aime bien les dialogues Jaoui et Bacri. J'aime bien leur côté fiel, leur côté ironique, leur façon de ne pas se prendre au sérieux. Enfin, voilà.
Bon. C'est vrai que ça ne restera pas un film dans les annales, ça c'est certain. Mais en ce moment où il fait si mauvais, où il fait si froid, où on attend le printemps avec beaucoup d'angoisse, eh bien, c'est agréable de rigoler à bon coup. Et on rigole à bon coup. Oui. Et c'est pas mal.
Oui, c'est un film.
Est-ce que tu as ri, Jean-Michel?
Oui, c'est, oui, j'ai ri par moments, effectivement. C'est sympathique. C'est un film sans prétention, pas révolutionnaire, mais qui est, où il y a beaucoup de finesse à plusieurs moments. Il y a un fini très réussi de la collaboration habituelle, Bakri, Jaoui. Pas beaucoup de renouvellement. Bakri me fait plus rire que Jaoui, qui est un peu poussive, me semble-t-il, dans ce film.
Oui, ça c'est vrai.
Les bribes de contes de fées sont tout à fait sympathiques, on s'amuse à les retrouver, on les voit pas tous, il paraît qu'il y en a plus de 200. Mais il y a des moments où vraiment on décolle un petit peu et où on aimerait que ces moments se répètent plus souvent. C'est celui, par exemple, où la fillette est à la fourche des deux routes de forêt et où surgit tout d'un coup le Wolf, le Maxime Wolf. Voilà, ces moments-là sont assez intéressants et merveilleux. Il y en a peut-être pas suffisamment au profit de citations.
Oui, ce qu'on peut regretter effectivement, c'est qu'on attend plus et on reste un petit peu sur son attente et sur sa fin. Oui, je crois que ce sera pas un petit peu peut-être notre avis général. Donc on va passer maintenant au troisième film, No. Alors là, c'est quand même autre chose. Hein. No, c'est une œuvre, c'est un film de Pablo Larraín. Enfin, excusez-moi pour la prononciation. C'est un cinéaste chilien, né à Santiago en 1976. À ce moment-là, il y a 3 ans que le général Pinochet est au pouvoir. Et l'œuvre de Pablo Larraín va donc être marquée par le régime. Si d'autres cinéastes chiliens comme Patricio Guzmán se sont tournés vers le documentaire pour rendre compte de la dictature, Pablo Larraín, lui, choisit la fiction. No appartient ainsi à une trilogie consacrée aux années Pinochet. Premier de la trilogie, Tony Manero, on parle du Chilien en 1979. Le second, Santiago Postmortem, est situé lors du coup d'État en 1973. Quant à No, lui, se situe en 1988. Le général Pinochet est au pouvoir depuis 15 ans. Sous la pression internationale, il organise un référendum et interroge les urnes sur son maintien à la présidence. Contre toute attente, le non l'emporte et Pinochet est vaincu. Qu'est-ce qui explique sa défaite? La pub, mon général. Jean, est-ce que tu partages ce résumé?
T'as au moins raison de poser la question, mais permets-moi d'y répondre un peu plus tard. En attendant, reprenons l'intrigue. La campagne électorale se résume en un mois de télévision, chaque camp ayant droit à 15 minutes quotidiennes, et le film commence alors qu'une semaine de campagne s'est déjà déroulée et que les résultats en sont calamiteux pour l'opposition à Pinochet. Car la campagne est axée jusqu'à présent sur le passé uniquement et un passé sinistre. Pour rendre le film encore plus crédible, Pablo Larraín, le réalisateur, inclut dans son film un tiers d'images d'archives et utilise une caméra d'époque pour que l'on remarque pas la différence entre la réalité et la fiction. Et c'est bien réussi. Le film est en fait l'analyse de 3 spots publicitaires réalisé par un publicitaire de génie, un Chilien, René, revenant d'exil et formé à l'étranger. 3 spots. Le premier spot est un spot pour vanter un soda, Free, genre Coca-Cola. Le dernier spot est fait pour promouvoir une série télé, genre People. Et entre les deux, il y a le spot qui nous intéresse, c'est-à-dire celui où on doit imaginer une campagne pour faire voter non au référendum de Pinochet, alors que les partisans du non, eux, partent battus. Le professionnel de la pub, qui est le personnage principal, va d'abord définir sa cible, comme tout publicitaire normalement constitué. Sa cible sont les personnages âgés, et l'on consacrera quelques minutes à l'évocation du passé en début de spot, mais surtout les jeunes, tentés par l'abstention. Pour ce public, on va axer la campagne sur l'avenir, avec force musique, jingle, danse, humour et joie de vivre. Et ça va marcher, aux grandes dames des partisans de Pinochet, qui vont se réveiller un peu tard et lancer une campagne dans le même style. Cette campagne du oui sera managée par le patron et l'ami du partisan du non. Et d'ailleurs, les deux compères se retrouveront à la fin, toujours dans la même agence de pub. On en oublie presque qu'il s'agit de décider de l'avenir d'un régime qui a bombardé, torturé, tué et emprisonné à tour de bras. Mais La stratégie fut payante et le message optimiste a réussi à vaincre la peur dont le vieux dictateur voulait jouer en évoquant un possible retour au passé socialiste. Revenons maintenant à la question fondamentale que pose le film et que tu as évoquée au début. La pub a-t-elle fait gagner les anti-Pinochet ? Si on est pessimiste, la réponse est oui. Si on est optimiste, et si l'on croit en la politique et au libre arbitre de l'homme, la réponse est non. Et l'on peut penser que la bonne campagne publicitaire n'a fait que révéler un mouvement de fond en faveur du changement anti-Pinochet. Où est la vérité dans tout ça ? Hélas, je pense que c'est un peu entre les deux.
Oui, ben moi je serais plutôt un peu pessimiste. J'adorais le film, hein. Mais ceci dit, je considère que c'est un film pessimiste parce que finalement, il me semble que ce qui nous dit enfin, en fond, c'est que ce ne sont pas les grands idéaux qui déterminent le comportement de l'homme, mais qu'en fait, si on sait utiliser des arguments appropriés, on peut le conduire où on veut. Et il est assez terrifiant de penser que si René n'avait pas vendu la démocratie comme un produit, le oui l'aurait peut-être emporté et que Pinochet serait resté au pouvoir. Mais je crois qu'on n'est pas d'accord avec, oui. avec Jean-Michel là-dessus.
Non, pas exactement. C'est-à-dire que moi, j'ai introduit une autre notion. On a parlé de la détermination du peuple qui est révélée comme ça par la publicité, disait Jean tout à l'heure. Moi, je pose une question. Est-ce que c'est un film négatif, amer, désabusé, ou est-ce que c'est un film positif qui suscite l'espoir, ou même l'espérance ? J'opte personnellement pour la seconde position, car l'évolution du personnage, qui est un bon professionnel de la publicité, qui au début ne se pique qu'au jeu du défi d'un pari impossible, faire triompher le no, va ensuite se transformer, peut-être pas en militant, mais va prendre conscience de la complexité de la vie, et je note au passage que cette évolution est assez voisine de celle de l'acteur Gael Garcia Bernal dans le film de Salès, Carnet de motocyclette. Et là aussi, il y a une transformation. Et à la fin, la dernière séquence avec l'isolement du personnage dans cette liesse générale qui porte dans ses bras un enfant, son enfant peut-être, sans doute, donne un relief, me semble-t-il, encore plus précis à sa transformation.
Oui, Jacques. Moi, j'opte aussi pour la vision positive. Parce qu'en fait, ce qui est fort dans ce film, c'est qu'il gagne en s'appuyant sur les valeurs les plus positives de l'homme, finalement. La joie, la foi, l'espérance. Et pas en ressassant, finalement, les aspects négatifs. Ça, je pense que c'est le message qu'on peut voir de manière très positive. L'autre chose que j'ai trouvé assez fort dans ce film, c'est l'analyse intéressante de la difficulté de la décision. Parce qu'au fond, cette campagne déjantée, il était extrêmement difficile pour les partis politiques de décider de la faire. S'il n'avait pas réussi, Si le oui était passé, ben tout le monde leur aura reproché cette campagne. Donc en fait, il y a un courage politique d'avoir fait ce choix que je trouve là aussi un message positif.
Moi, je trouve que ce positif dans ce film, c'est la lucidité. Parce que je trouve que c'est un film qui porte sur l'homme un regard
lucidité. En plus, ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que c'est un film qui, en fait, se voit comme un thriller, ce qui est paradoxal parce qu'on sait d'avance la fin. Ce qui est donc un remarquable film de ce point de vue-là. Quoi.
Oui. Et que l'intérêt ne faiblit à aucun moment.
Ouais. Mais je crois, par contre, ce film-là, on peut le recommander à tout le monde.
Absolument.
Si les autres,
ouais.
On pouvait avoir...
Nous sommes d'accord.
Ouais. Là, on est d'accord.
On va voir. Il nous reste peut-être un peu de temps pour passer rapidement du coup de cœur. Jacques, tu voulais nous parler d'un film bosniaque, je crois, Djeka.
Oh, Djeka, donc, très rapidement, c'est un film d'Eda Bejic qui nous avait d'ailleurs assez enchanté avec son premier film, Première Neige. Alors ici, la poésie de la campagne enneigée de Première Neige est remplacée par une ville grise, des cuisines en sous-sol, des appartements exigus, des tunnels glauques. Elle met en scène des personnages qui étaient des jeunes enfants pendant la guerre. Et on voit évidemment les atrocités de la guerre, plutôt à travers des flashbacks d'ailleurs, mais on voit toute une peinture à la fois pessimiste d'une société corrompue et violente, où les puissants font la loi, mais aussi une vision très positive de la fraternité des femmes qui était déjà magnifiée dans Première Neige. Donc c'est un beau film qui se termine par une certaine lueur d'espoir, l'image finale de la sœur et du frère enlacés dans une rue déserte le soir du réveillon, puisque donc l'histoire raconte un peu les difficultés que cette jeune femme a avec l'éducation de son frère dont elle s'occupe. Un beau film, positif, sur une période et sur un pays qui a vécu des moments très difficiles.
Oui, mais merci Jacques. Jean, toi aussi tu voulais parler d'un autre film, alors qu'il n'a rien à voir du tout avec le genre de film dont tu viens de parler.
Absolument rien à voir. C'est le film qui s'appelle Spring Breakers. C'est un film américain d'une dénommée Harmony Korine et qui a été présenté en compétition officielle à Venise en 2012. Le film. Quatre jeunes étudiantes américaines profitent de la pause de printemps pour aller se défouler en Floride, au soleil, sur la plage, en bikini. Leur but ? S'enivrer de bruit, d'alcool, de danse et de drogue. Accessoirement de sexe, mais c'est pas l'objet principal. Elles n'ont pas assez d'argent pour aller là-bas. Aussi braquent-elles un fast-food pour s'en procurer. Arrivées en Floride, après quelques jours de folie sur la plage, trois d'entre elles font la connaissance d'un chef de gang et elles deviendront des tueurs dans un règlement de compte entre bandes rivales. Vous voyez, c'est pas spécialement un peu bizarre. Les personnages du film vivent dans un monde de jeux vidéo et de séries télé. Seule la quatrième, plus ancrée dans la réalité, quitte la bande et rentre chez elle. Durant la projection, nous sommes plongés dans le bruit, les mouvements de caméra incessants, les ralentis, les micro-flashs black qui nous tournent la tête et ce n'est pas de tout repos. Si vous allez voir ce film, et je vous le conseille, vous vous sentirez un peu dans la peau de Claude Lévi-Strauss découvrant une tribu d'Amazonie. Et ça, c'est une expérience qui vaut le coup.
Merci Jean, je crois qu'on a donné un panorama assez large, un choix de films très varié pour nos auditeurs. Je crois qu'il est temps venu de rendre l'antenne, mais merci à Jacques, Jean et Michel qui ont animé cette émission. Merci à la réalisation technique et merci à tous ceux qui l'ont écouté et à qui nous disons à la prochaine fois. Chant contre chant est programmé tous les quatrièmes vendredis du mois, de 14h à 14h30. Notre prochaine rencontre aura donc lieu le vendredi 26 avril. Et nous y parlerons bien sûr de l'actualité cinématographique. Au revoir, à bientôt.